Donc ce matin, j'ai remarqué que mon t-shirt était un peu transparent. Alors vous allez me dire, c'est pas très très intéressant, mais je me dis, tant qu'à faire, tant qu'à être totalement transparent, c'est un t-shirt propre, apparemment, un t-shirt en coton, un t-shirt beige, pas vraiment blanc, ce qui pose un certain nombre de problèmes parce que les procédés de teinture se font avec des métaux lourds comme le plomb et provoquent des intoxications qui font 20 000 morts chaque année. Bon, je me dis, ça va, c'est un t-shirt, un simple t-shirt. Et pour le faire, je me suis quand même renseigné, il a fallu 2650 litres d'eau et puis 150 grammes de pesticides qui s'infiltrent dans l'eau, qui créent une surface de sel qui rend les terrains inutilisables, qui contribue aux maladies chroniques, et je parle pas des kilos de gaz à effet de serre, 20 fois le poids du t-shirt, de ce t-shirt en coton, hein, dont la récolte des fleurs en réalité se fait en Asie du Sud-Est, ce que dit l'étiquette. Et soudain il me vient l'idée pas très agréable, je dois dire, qu'il a été fabriqué par quelqu'un qui travaille 6 jours et demi sur 7 au lance-pierre, qui a moins de 15 ans et qui ne dispose d'aucune protection sociale, ce que ne dit pas l'étiquette. Alors évidemment j'ai envie de le jeter là tout de suite ce matin, d'autant qu'il m'a pas coûté bien cher, et c'est bien ce qui contribue au cercle vicieux de surproduction, de surconsommation du vêtement aujourd'hui. Ce vêtement, on ne peut plus simple, hein, ce t-shirt qu'il faudrait recycler, ce t-shirt pas vraiment blanc, un petit peu transparent, et tant qu'à être totalement transparent.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, quelle écologie du vêtement pratique mon invité d'aujourd'hui. Depuis 25 ans, son univers où se mêle le chic et la désinvolture a conquis le monde entier et en a fait l'une des créatrices françaises les plus influentes. Bonjour Isabelle Marant.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là ce
Merci.
Matin. Est-ce que vous n'auriez pas un t-shirt sous votre sweatshirt?
Oui, j'ai un t-shirt sous mon sweatshirt, que je porte d'ailleurs depuis plus de 20 ans.
Ah ça c'est pas mal, parce que le problème...
Mais voilà, c'est ça le problème.
C'est qu'on
voilà.
les jette.
Ben, le problème c'est la surconsommation, c'est sûr. Parce que la mode n'est pas écologique. Il ne faut pas se raconter des histoires.
Oui, je vous ai souvent entendu employer ce terme d'écologie en fait, du vêtement. Qu'est-ce que c'est pour vous une écologie du vêtement, Isabelle Marant?
Ben, ça passe d'abord par la consommation, la manière dont, dont on consomme le vêtement, d'acheter les bonnes choses. Moi, j'ai toujours essayé de faire des vêtements qu'on a envie de garder, qui se démodent pas, qu'on a dans son placard et dont on n'a pas envie de se détacher.
Et comment on fait dans une industrie comme la vôtre, qui est la deuxième industrie la plus polluante du monde, pour concilier en fait sans cesse écologie, création, rentabilité? Je suppose que ça doit vous poser un certain nombre de questions tout le temps.
Tout à fait, ça me pose des gros problèmes et donc ça fait longtemps que je me suis assise sur le fait que la mode soit écologique, parce que il y a un vent qui monte avec des tissus bio, des machins, là, avec des appellations à la mort moelle-neu, qui en fait, quand on étudie le truc, c'est absolument pas bio. C'est-à-dire que faire du coton bio, bah, ça utilise encore plus d'eau. Si tout le monde se met au coton bio, bah, on va complètement déforester la planète. Quoi, c'est débile. C'est juste des manières de se donner une bonne conscience. Je pense que l'écologie du vêtement, elle passe plus par la manière dont on la consomme. Pardon, j'ai perdu le fil de mes idées.
C'est bien, c'est intéressant. Et quel avenir est-ce que vous lui voyez, vous, à l'industrie de la mode et du textile dans ces conditions, vous dont l'entreprise n'a pas cessé de croître depuis 25 ans?
Comment je vois les choses, c'est très compliqué, parce que c'est vraiment un rapport de love and hate. Et après, c'est comment je pense que il faut, nous on essaye de mener des actions parallèlement à ce qu'on détruit, de replanter des arbres, d'une espèce de compensation de notre impact. J'essaye de travailler en Inde, par exemple, avec des usines qui aident les femmes à scolariser leurs enfants. Voilà, j'essaye de travailler avec des partenaires qui ont aussi une conscience. Voilà, il faut savoir aussi que quand sur des étiquettes de vêtements, il y a marqué « Made in China » ou « Made in India », ça ne veut rien dire, parce qu'il y a partout dans le monde des gens qui ont une vraie conscience professionnelle. Et que, par exemple, du Made in Italy, bah, c'est fait par des Chinois payés au lance-pierre dans des caves. Pour beaucoup, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Je crois que les gens se font complètement avoir par des idées reçues, des idées préconçues. Les choses sont beaucoup plus brouillées qu'on ne le pense.
En tout cas, c'est assez passionnant, parce que ces enjeux environnementaux, ils invitent chacun à interroger ses pratiques, effectivement, de consommation, ses désirs aussi, ses aspirations. À l'origine, pourquoi est-ce que vous avez choisi de créer des vêtements vous, Isabelle Marant?
Parce que ce qui m'intéressait dans le vêtement, c'était l'artisanat du vêtement, parce que c'est et c'est là aussi où j'ai l'impression d'avoir un impact plutôt positif, parce que j'essaye de travailler avec des artisans qui ont des savoir-faire ancestraux, qui sont sublimes, des denteliers, des brodeurs, des tisseurs. Et c'est vrai que c'est même si la mode est une industrie, c'est une des industries les plus artisanales malgré tout. Et il y a un savoir-faire magnifique et des gens qui travaillent avec leurs mains. Et il y a des milliers de métiers à faire autour de la mode qui se perdent malheureusement, et ça c'est très dommage. Par exemple, l'Italie, elle a su garder cet amour de l'artisanat. En France, on l'a complètement perdu, alors qu'il y a plein de choses magnifiques à faire, et que plein de gens ont envie de se remettre à justement des métiers beaucoup plus manuels. Parce que derrière une machine à coudre, malgré tout, il y a un humain derrière qui fait passer son tissu sous une aiguille.
Je crois que vous en aviez une machine à coudre toute petite, Isabelle Marant.
Tout à fait, ouais.
Elle s'appelait comment? C'était quoi comme machine à coudre?
C'était une singère, la bonne vieille singère de nos grands-mères.
Et comment vous avez appris à vous en servir? Vous aviez quel âge?
Oh, je devais avoir 14-15 ans et j'avais demandé à mon papa de m'offrir une machine à coudre parce que j'avais envie d'assembler deux pièces de tissu ensemble et de m'amuser à retailler des vieilles robes de chambre de mon père dans lesquelles je me faisais des robes, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la mode. Ouais.
Qu'est-ce que vous portiez, vous, à l'époque, à 14-15 ans?
J'étais très très rebelle parce que mes parents voulaient absolument que j'ai des kicks. C'est des robes, des jupes en quilt laine que je détestais. Et moi, j'étais plutôt une espèce de rebelle garçon manqué, donc je préférais plutôt me porter des vieux jeans et des vieux t-shirts.
Des vêtements que vous porteriez encore aujourd'hui, que vous portez?
Tout à fait, ouais.
Peut-être encore aujourd'hui.
Oui, j'en ai gardé pas mal, ouais.
Mais Isabelle, parce qu'il y a une légende aussi, il paraît que vous alliez à l'école en charentaise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
J'ai toujours trouvé ça très joli, les charentaises.
Bah oui.
Mais c'est les choses authentiques m'ont toujours beaucoup plu. Voilà, j'adorais aller en charentaise et en robe de chambre imprimée paisley en soie de mon père. Donc des fois je me faisais virer du lycée parce que j'arrivais un peu bizarrement habillée. Et aujourd'hui quand je rencontre mes copains de l'époque, ils me disent: "Ah, on savait que t'allais faire de la mode, hein, parce que quand même
t'arrives en charentaise." Et votre mère vous laissait faire ou pas?
En fait, ils me voyaient pas partir parce que j'avais la tenue réglementaire, et puis dès que j'avais tourné le coin de la rue, dans un sac en plastique, je rentrais
comme les comédies romantiques américaines.
Voilà. Et je me redéguisais.
C'était quoi le style de votre mère?
Le style de ma mère, elle était assez écolo, très fleurs, Kenzo de l'époque, Kenzo jungle, ouais, plutôt nature, alors que j'avais une belle-mère qui était plutôt Montana, tout en couleurs, hyper maquillée. On parle des années 80. Donc j'étais élevée par mon père et ma belle-mère, et j'allais en week-end chez ma mère, et j'ai été élevée par deux mères que je considère m'avoir élevée, avec deux styles très très différents.
Et c'était des contre-modèles, ces styles-là? Vous vous opposiez à ces modèles-là?
Je m'opposais plutôt au modèle de ma belle-mère, qui était très flamboyant. En fait, elle était juste sublime. C'était une espèce d'égérie Saint-Laurent, la sublime black, mais qui passait des plombes à se maquiller, quoi. C'était l'époque. Elle était très dans le style, alors que ma mère était plus discrète et plus nature.
Vous êtes toujours aussi radicale, Isabelle Marant, aujourd'hui, quand vous regardez en vêtements?
Oui, je suis assez radicale. C'est vrai.
Ouais, oui. Dans quelle
Mais
mesure
faut le rester, je pense. Ouais. C'est une exigence aussi.
Et dans quelle mesure est-ce que votre conception du style est liée à une forme de rébellion, à une forme de contestation, justement?
Je crée pas en pensant à ça. En fait, je pense que c'est juste ma personnalité, et c'est pas forcément contestataire, mais c'est plus de rester fidèle à qui je suis et à mes valeurs.
Rebelle toujours? Ça fait partie
de
vos valeurs.
Je ne sais pas si je suis rebelle, mais oui, je pense que c'est bien la rébellion. Je marque révolution sur mes sweatshirts.
Alors, voilà. C'est qu'il y en a une qui est rebelle dans cette émission. C'est la culture et son actualité insolente, incapable de souhaiter bon anniversaire à notre invité. C'est quand même hallucinant. Je peux plus me la voir, Isabelle. La culture, évidemment, pas l'invité. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 12 avril? Coachella est là, ce je ne sais quoi qui nous met dans un drôle d'état. Le festival américain où l'on se rend autant pour voir que pour être vu inaugure aujourd'hui son premier week-end de festivités stylé. Côté prog, faut bien l'avouer, ça promet du lourd avec le génial touche à tout Childish Gambino, les Australiens solaires de Tame Impala ou la divine diva Ariana Grande. Et les Français seront aussi au rendez-vous, notamment Charlotte Gainsbourg, Geza Felstein, Jane, DJ Snake ou le duo de pop tropical Polo et Pan. Et bam!
Il n'y a pas de grande architecture sans passion.
La France archi primée, pas moins de 2 projets tricolores ont été distingués dans le cadre du Miles van der Rohe Award 2019, prestigieux prix d'architecture contemporaine décerné par l'Union Européenne. La principale récompense a été attribuée aux archis Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal pour leur programme de réhabilitation de 530 logements sociaux réalisés dans la cité du Grand Parc à Bordeaux. Dans le même temps, le prix architecture émergent a été remis au cabinet Bast de Toulouse pour un réfectoire scolaire à Montbrun-Bocage en Haute-Garonne, à la Bonne.
Now inhale, exhaling, turn your feet.
Ils vont s'y donner corps et art. Le Palais de Tokyo à Paris accueille pour le week-end le formidable festival Do Disturb, manifestation pluridisciplinaire où dialoguent vidéastes, musiciens, plasticiens et danseurs. En tout, plus de 70 artistes sont invités à explorer les territoires non balisés de la création contemporaine. On pourra notamment y voir Eichlet, performance féministe, explosive, sensuelle de la Belge Mercedes Dassy, ou No Sweat Last Night qui allie l'art et le sport, pensé par la Française Delphine Roche. Go, 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 Do Disturb. Et demain, dans toute la France, le Disquaire Day célèbre la fête du vinyle et du bon son. Plus de 200 marchands indépendants répartis dans 90 villes ouvrent leurs stands et vous attendent avec leurs pépites des platines cette année. C'est le DJ à moustache, c'est César Rizé et Arnaud Robotini qui est l'ambassadeur de la manifestation. Pour l'occasion, il sera à la Philharmonie dimanche pour interpréter en live avec un ensemble orchestral la BO du film 120 battements par minute. Pour trouver tous les événements groovy près de chez vous, direction le site disquaireday.fr au Top Zer. Et la créatrice de mode, Isabelle Marant, invitée de Boomerang ce matin. Votre nom, Isabelle, il est associé à une certaine idée de la France, à une certaine indépendance aussi. Pourtant, il y a 3 ans, je crois que vous avez cédé 51% de votre capital à un fonds d'investissement français. Pourquoi cette décision ? Difficile à prendre, je suppose.
Non, pas difficile à prendre du tout. J'ai toujours un peu prévu ça. J'ai pas envie de passer toute ma vie dans la mode. Et je compte bien prendre ma retraite et faire autre chose. Il y a beaucoup de choses dont je suis très convaincue. Et je voudrais avoir le temps de faire... quelque chose de plus consistant que la mode.
Ah, c'est vrai.
Dans une deuxième partie de ma vie.
Alors, quelles autres choses ?
C'est pas très clair encore, parce que le monde change tellement vite que j'ai des idées différentes chaque année.
C'est intéressant quand même ce mot consistant. Il vous a toujours semblé que ce métier était inconsistant ?
Oui et non. En fait, il y a une certaine légèreté qui fait la beauté aussi et qui donne cette attirance pour la mode aux gens. Après, moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Et je trouve que la façon dont que prend le cours des choses ne me correspond plus, et ça fait longtemps que je le sais et que j'ai envie de rendre ce que la vie m'a donné et de me dédier à des gens, à des causes qui vont me remplir d'une autre manière plutôt que cracher de la sape tous les deux mois. C'est un peu ça. Notre métier, c'est un peu devenu ça. Et malheureusement, j'ai mis les doigts dans une prise et je ne peux plus les retirer. Et voilà, je trouve que... voilà, la place aux autres, aux jeunes, il y a plein de gens derrière.
Mais d'un point de vue économique, vous savez qu'à ce micro, le créateur Kenzo nous disait que c'était presque inévitable aujourd'hui de perdre une forme d'indépendance.
Tout à fait. Ben, le problème, c'est qu'on il faut toujours aller de l'avant, grandir, se développer. Et ça, c'est l'état d'esprit du monde aujourd'hui, alors qu'on peut certainement faire les choses autrement. Mais quand on a un passé comme le mien de 30 ans, c'est très difficile de dire, bon, ben voilà, moi aujourd'hui, je fais plus que 10 vêtements par an. Ils sont parfaits, je les fais parfaitement bien. Ils vont être sublimes, vous les garderez toute votre vie. Je peux ça pas avoir pas. Ce discours. Bah, j'ai 300 personnes qui travaillent pour moi.
Bien sûr.
J'ai voilà, c'est qu'est-ce que je dis demain à mes employés. Bon, bah, écoutez les gars, on va faire plus que 10 vêtements par an, ils seront parfaits. Mais
et bien, parler d'économie, ça a un vrai sens, hein, Isabelle Marant, ouais. Avec vous, parce que pendant longtemps, HEC, c'était l'un de vos objectifs.
Tout à fait.
Dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui, devenir créateur de mode, c'est pas seulement être créatif, en fait, c'est avoir le sens des affaires, tout simplement.
Oui, non, je pense qu'il faut avoir un message, quelque chose à dire, une vraie personnalité. Et après, de ça, on en fait ce qu'on veut. Il y a plein de possibilités, il y a plein de schémas à avoir différents. Aujourd'hui, il y a Internet
qui n'existait pas. Mais le sens du business, vous le sentez plus dans les nouvelles générations que quand vous avez commencé ?
Certainement, oui, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'échecs et peut-être que les jeunes qui commencent aujourd'hui réfléchissent un petit peu plus à un modèle économique. Peut-être pas tout le monde, mais je pense que c'est un peu plus présent que ça n'a pu l'être.
Pour vous, quand est-ce que ça a commencé vraiment ? Quelles sont les premières pièces que vous avez créées, montrées sous votre nom ? Vous vous souvenez ?
Oui, je me souviens, oui, c'était en 60... qu'est-ce que je vais dire, n'importe quoi.
En 1923.
Ce moment où en 1923.
Non.
En 94. Oui, c'était des... J'ai commencé principalement en faisant de la maille, parce que j'adore la maille, et du jersey. Et oui, je m'en rappelle très bien, j'ai encore des pièces dans mon placard.
Comment on fabriquait les vêtements à l'époque ?
Je les faisais moi-même, derrière ma machine à coudre.
Ouais. Chez vous ?
Chez moi, ouais.
Alors, votre ambition, vous le dites souvent, Isabelle Marant, ça n'a jamais été de faire des robes pour des cérémonies ou des tapis rouges. Votre ambition, c'était toujours le prêt-à-porter, en fait.
Oui, c'est vraiment un terme que j'ai toujours pris à la lettre. Ce qui m'intéresse, et dans la mode aussi, c'est qu'est-ce que je mets ce matin ? Il y a quoi dans mon placard ? Parce que finalement, la réalité, c'est ça. Et je pense que c'est aussi une grande part de mon succès, c'est d'avoir eu ce réalisme du vêtement et de dire, bah voilà, on doit le porter, je le mets. Faire des vêtements importables, ça sert à rien.
Et comment on sait quand un vêtement est prêt à porter ? On l'essaye, justement ?
Ben c'est quand il est sur la table ou sur un cintre et qu'on meurt d'envie de le mettre tout de suite.
Alors une fois que vous le portez, ce vêtement, qu'est-ce que vous vérifiez ? À quoi est-ce que vous êtes attentive ?
Moi, j'ai besoin. Je pense qu'on est tous un peu pareil. Et encore de plus en plus aujourd'hui, c'est le confort avant tout. Parce qu'on peut avoir une super jolie robe, mais on se sent pas bien, on se sent pas soi. Ça marche pas. Moi,
donc
je sais que je
sensation.
Prends toujours le premier sweatshirt sur le haut de la pile, dans lequel je me sens bien, qui est rassurant. Oui, c'est une sensation. Et comment un vêtement peut mettre en valeur un corps. Moi, je connais le regard d'une femme sur elle en face d'un miroir. Il faut qu'on ait l'air mieux que ce qu'on est. Un vêtement, un pantalon avec des poches mal placées ou qui fait des grosses fesses ou qui élargit les hanches, ça, je le prends, hop, je le remets sur un cintre illico presto. Par contre, quelque chose qui tombe bien, qui me donne une certaine attitude, qui a l'air plutôt de m'amincir, je vais plus quitter ce pantalon.
Pour peu
et je pense qu'on est toutes pareilles.
On ait envie de se sentir amincie, et évidemment. Là, par exemple, je suppose que vous êtes vêtue d'Isabelle Marant des pieds à la tête, non ?
Oui. Ouais.
Alors, quelle sensation vous procure ce sweatshirt qui est face à moi ?
Mon vieux sweatshirt tout pourri, je l'ai tellement lavé et tellement porté que c'est une deuxième peau. Mon t-shirt en dessous, il est tellement détendu et tellement vieux que je l'adore et c'est un doudou. Moi, j'ai un rapport très doudou aux vêtements parce que je suis par terre à quatre pattes toute la journée, donc j'ai besoin d'être dans des vêtements faciles et en même temps, j'ai pas envie d'être en pyjama non plus, donc c'est une bonne encolure, un bon détendu, le bon négligé qui reste stylé quand même.
Qu'est-ce que c'est un
comme
beau
vous,
vêtement
cher Augustin,
ouais, je suis pas
on
sûr.
A pas habillé pareil, hein,
ouais,
quand,
je suis
même.
Pas sûr, quand même.
On a tous les deux un sweatshirt, ouais, avec un t-shirt en dessous, un jean un peu slim, voilà. C'est on bien. A l'air un peu de sortir du lit, mais en même temps, on est stylé.
C'est bizarre de se sentir décrire par un invité. Voilà. J'aimerais pas du tout avoir cette expérience. Qu'est-ce que c'est un beau vêtement pour vous, Isabelle?
Qu'est-ce que c'est un beau vêtement? C'est un vêtement réalisé dans un beau tissu, parce que quand même la matière première pour c'est 60% du vêtement. Après, c'est une belle coupe. Vous bien diriez... étudié avec les pinces, les coutures au bon endroit.
Vous diriez qu'un vêtement a le pouvoir de rendre beau celui ou celle qu'il porte ?
Indirectement, oui, parce que quand on se sent bien dans un vêtement, on a une attitude qui est beaucoup plus naturelle, qui est pas guindée, et quand on porte quelque chose de beau, on le sent et du coup on a l'attitude qui va avec. Moi, c'est très con, mais par exemple quand je fais mes défilés, il y a des manicures pour les mannequins, elles me disent tout le temps, viens, je te mets du vernis. Moi, je ne fais jamais ça, j'ai pas le temps. Je préfère faire autre chose le samedi matin que d'aller chez la manicure. Et ben c'est vrai que d'avoir des belles mains, tout d'un coup, on fait des jolis gestes et on se tient plus droit. On est voilà. Porter un beau vêtement, je crois que c'est pareil.
Bon, on va se mettre du vernis alors tous les deux. Voilà. Mais du vernis noir, non ?
Moi, j'ai un peu du mal. Mais ça va très bien à certaines personnes.
Ah bah ouais, carrément. Comptez sur moi de toute façon pour que ce soit un vernis particulier. On va continuer à parler de beauté, de style, de textile, juste après Blondie. One Way or Another sur l'album Parallel Lines, c'était en 1978. Vous êtes sur France Inter avec Isabelle Marant. On est vendredi. Oh, mais comment on est ravis, là. Ravis.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Je m'étais promis de pas la faire, mais c'est vrai qu'elle est marrante quand même, hein, qu'elle porte bien son nom. Jamais la dernière.
Heureusement que je m'appelle Patrice. Hein.
Jamais la dernière lorsqu'il s'agit de faire une petite blague. Un tour de magie, un croc en jambe, la mine radieuse, ensoleillée, l'œil bleu pétillant, le cheveu sportif, une allure pleine d'allant. On est quelque part entre Sporty Spice, vous vous souvenez, et Grand-mère Feuillage qui revient avec son sweatshirt Mr. Freedom, Monsieur Liberté. Ce matin, la créatrice de mode Isabelle Marant, invitée de Boomerang, pour parler de son travail. Et l'une des questions que je me pose tout de suite lorsque je vois un vêtement, c'est de savoir comment il naît en fait. De quoi naissent vos vêtements, tiens, Isabelle ?
Ça peut être vraiment de trois fois rien. Je me rappelle avoir commencé des collections en regardant une femme dans la rue relever ses cheveux et je me suis dit, ah, quand même, le cou d'une femme, les épaules, c'est tellement joli et ça m'a inspiré. Une autre collection, elle a commencé avec un bout de post-it rose qui traînait sur le sol où je me suis dit, ah, ce rose, mais, et voilà, c'est un fil qu'on tire. Je me compare souvent à un cuisinier, c'est-à-dire que à chaque fois, on est en train d'inventer une nouvelle recette, et c'est l'association de différents ingrédients qui finissent par faire un plat. Et moi, ça commence souvent par des bribes d'envie de petites choses.
Et par quelles étapes est-ce que vous passez pour matérialiser justement, pour que ça devienne un vêtement, cette idée? Que ça prenne la forme d'un vêtement. C'est un dessin, au départ ?
Non, c'est pas forcément un dessin. Moi, c'est plutôt intellectuel, parce que je dessine pas énormément. Je fais plus des croquis d'intention que des croquis comme pouvaient faire Karl ou des gens qui dessinent. Moi, c'est beaucoup plus cérébral que ça.
Ce sont des petites silhouettes, en fait.
Oui, c'est ça. C'est des petits... comme des storyboards, plus... mais j'essaye de comprendre pourquoi, comment j'associe un post-it rose à un cou d'une femme. La musique m'inspire aussi énormément. Le rythme, pour moi, c'est très important. Le rythme, le tempo, l'attitude, l'énergie.
Ça se ressent dans un vêtement ? La musicalité, presque ?
Ben moi j'ai besoin de alors je sais pas si ça se ressent dans un vêtement, mais quand tout le monde part du bureau, je mets la musique super forte et hop, c'est reparti, et ça m'emmène en fait comme un film où je me laisse porter par une espèce d'histoire. Et souvent il y a des parallèles entre des mouvements musicaux et la mode que j'ai envie de faire, la façon beaucoup toute la musique électronique qui est justement des fêtes de samples, de choses, de funk, de musique classique, de musique d'un tambour africain. Voilà, il y a des parallèles qui sont très intéressants dans le mix and match des choses.
Je remarque aussi, Isabelle Marant, que les silhouettes que vous composez sont souvent, ont souvent quelque chose d'androgyne. Quand est-ce que vous avez compris que cette androgynie serait l'un des marqueurs forts de votre univers ? Tout de suite ?
C'est moi, donc c'est pas une compréhension, c'est juste une honnêteté et une envie et une sincérité de qui je suis et comment je vois les choses. Après, j'ai jamais calculé le fait de, ok, je vais faire une mode androgyne, ça va être super.
Non, mais en revanche, cette mode s'inscrit dans un paysage et fait, enfin, à une dimension du coup intéressante, à mon avis. C'est une vision du féminin, quand même.
Du féminin, ouais. Oui, d'une féminité assumée. À une époque où on avait, à l'époque où j'ai commencé, c'était la femme objet, c'était la femme Tom Ford. Voilà, moi j'ai pas cette image-là de la femme. Je pense qu'on vaut mieux que ça.
vous sentiez à l'aise quand vous avez commencé?
Oui, parce que je me pose pas ce genre de questions. En fait, c'est là où je suis un peu rebelle.
Il faut un drôle de culot quand même.
Je sais pas si c'est que culotté, c'est juste, voilà, moi je suis comme ça, j'ai envie de faire une mode comme ça, qui même me suive. En plus de ça, mon plan de carrière, c'était pas d'être inconnu internationalement. Moi, c'était de faire les vêtements que j'avais envie de porter, que j'avais envie de mettre sur mes amis, sur les femmes qui m'entouraient. Et c'était pas plus que ça.
Vous l'avez vu évoluer, le rôle du vêtement, justement, toutes ces années, qui participe aujourd'hui d'une sorte de spectacle, c'est ce que nous disait Jean-Paul Gaultier, à ce micro, qu'il n'existe presque plus en tant que tel, qu'il est devenu spectacle, Isabelle Marant.
C'est vrai, oui. Il avait déjà commencé à évoluer insidieusement au moment où j'ai commencé. C'est vrai que à l'époque des grands couturiers, toutes les époques des années 70-80, le vêtement avait pas du tout la même résonance qu'il a aujourd'hui. C'était presque des sculptures. Il y avait un vrai une vraie élaboration du vêtement. C'est-à-dire, il n'y avait pas ce côté consommation. On n'était pas du tout dans ce domaine-là. C'était plus de l'art, je pense à des Montana, à des Mugler, à des Christian Lacroix. L'approche était très différente. Aujourd'hui, oui, c'est beaucoup plus marketé, axé sur le consumérisme.
C'est aussi pour ça que vous voulez en sortir ?
Oui, un peu, oui. Merci. C'est beaucoup moins intéressant.
Merci infiniment, Isabelle Marant, d'être venue faire un tour dans cette émission. Et merci à toute l'équipe de Boomerang. Ouais. Lola Costantini, Valentine Chedebois, Léonard Bio, Pierre Martinerie, Paul Guillot, Jean-Baptiste Audibert, à lundi, les amis. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers. Juste après ça.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout haut, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout.